France Culture.
Le journal est signé Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. La France doit-elle accepter de perdre ses enfants à la guerre, comme le dit le chef d'état-major Fabien Mandon? Les insoumis, les communistes et le Rassemblement national dénoncent des propos irresponsables. Le général Mandon est pleinement légitime à s'exprimer sur les menaces, répond le gouvernement. L'Ukraine a reçu des États-Unis un projet de plan de paix. Les Américains et les Russes voudraient pousser Kiev à accepter des concessions territoriales. Et l'Union européenne veut être associée aux négociations. Le français Yann Lequin, pionnier de l'intelligence artificielle, quitte Meta pour lancer sa propre start-up. Derrière ce départ, il y a des divergences sur le développement de l'IA et ses enjeux commerciaux. Maire, pourquoi faire? Notre rendez-vous hebdomadaire consacré aux municipales à 18h15. Aujourd'hui, les maires ruraux, sans arrêt sollicités par leurs administrés. L'homme à tout faire de la République, un dossier préparé par Lise Verbeck. Le patron de l'armée française imaginait-il déclencher une telle tempête avec son discours devant les maires de France? Le chef d'état-major Fabien Mandon a affirmé hier que le pays devait être prêt à accepter de perdre ses enfants. Le même général Mandon qui en octobre avait dit que l'armée française devait se tenir prête à un choc dans 3-4 ans face à la Russie. À gauche, Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel ont rapidement dénoncé les propos va-t-en-guerre du chef d'état-major. Le RN a aussi critiqué Fabien Mandon. Nicolas Balut, bonsoir.
Bonsoir.
Devant l'ampleur de la polémique, la ministre des Armées, Catherine Vautrin, a défendu publiquement le général Mandon.
Oui, Catherine Vautrin estime que le chef d'état-major a été légitime pour parler des menaces et que ses propos ont été sortis de leur contexte. Je vous propose de les écouter.
On a tout le savoir, toute la force économique, démographique, pour dissuader le régime de Moscou d'essayer de tenter sa chance plus loin. Ce qu'il nous manque, et c'est là que vous avez un rôle majeur, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple, alors on est en risque.
Voilà, si tu veux la paix, prépare la guerre, c'est un grand classique. En tout cas, les autorités françaises cherchent à préparer les esprits face à la menace russe avec un succès, semble-t-il, relatif. C'est peut-être pourquoi l'on retrouve le chef d'état-major des armées devant une assemblée de maires pour dire des choses aussi fortes. Ce qui provoque la colère des oppositions. Deux exemples. Ce n'est pas à lui d'aller inviter les maires à des préparations guerrières décidées par personne, s'indigne Jean-Luc Mélenchon, le leader des Insoumis. Sébastien Chenu, pour le RN, n'est pas si loin sur LCI.
S'il nous dit quelque chose qu'Emmanuel Macron ne nous dit pas, c'est très grave. S'il nous dit quelque chose qu'Emmanuel Macron pense, c'est très grave. S'il nous dit quelque chose qu'Emmanuel Macron ne pense pas, c'est très grave.
Comprendre, c'est au chef de l'État de parler et de clarifier ses intentions. On rajoutera cette petite phrase d'un autre élu RN, Louis Alliot. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Français qui sont prêts à aller mourir en Ukraine, ce qui rappelle évidemment le « faut-il mourir pour Danzig » à l'orée de la Deuxième Guerre mondiale. Le général Fabien Mandon aura toutefois réussi à faire parler de ce sujet à l'heure où certains sondages montrent que beaucoup de Français se sentent éloignés du conflit parce qu'il n'est pas aux portes du territoire et à l'heure où l'on recommence à parler d'une forme de service militaire.
Nicolas Balut, merci. On retourne au congrès des maires pour évoquer cette fois le discours très attendu de Sébastien Lecornu tout à l'heure. Le Premier ministre est venu clore la 107e édition de ce congrès qui intervient cette année dans un contexte politique et budgétaire très tendu. Les élus s'inquiètent pour leurs finances et ils doutent des réelles intentions du chef du gouvernement en matière de décentralisation. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir.
Vous êtes à ce congrès des maires, sur le point de fermer ses portes, où Sébastien Lecornu n'est pas venu les mains vides.
Non, mais pas tout à fait pleine non plus. Il tente la carte directe. Le Premier ministre fait mine de s'affranchir d'un discours prévu pour parler plus franchement, plus librement.
Ces 6 dernières années, j'ai pas la langue de bois, il y a des ratés. Mais on voit bien qu'au fond, on perd peu à peu en liberté, tout simplement parce que nous n'arrivons plus à faire simple.
Et un par un, il prononce les mots magiques, décentralisation, simplification, confiance. Sébastien Lecornu jure qu'il comprend les élus, leurs inquiétudes et qu'il va essayer d'y répondre.
Je vous propose de supprimer, d'élaguer la plupart des normes, en tout cas celles qui dépendent du pouvoir réglementaire, c'est-à-dire du gouvernement. Je peux m'y engager dès maintenant devant vous.
Il promet des décisions rapides, au moins celles qu'il peut prendre tout seul, pour simplifier le quotidien des élus, des petites mesures présentées comme de bon sens. Et puis, il parle reconnaissance avec cette idée de nouvelles primes de risque pour les maires.
J'ai demandé au ministre de travailler à un principe de prime régalienne qui pourrait représenter 500 euros par an pour chaque maire, quelle que soit la taille de la commune. On ne peut pas demander aux maires, agents de l'État, de prendre sans cesse plus de risques sans voir ce risque reconnu.
Mais sur les questions financières, cette mise à contribution de près de 5 milliards pour les collectivités dans le budget 2026, rien. Sébastien Lecornu renvoie la balle au Parlement et appelle une fois de plus à la responsabilité collective.
Il y a les mesures qui sont dans le budget et il y a les impacts pour les collectivités territoriales de l'absence de budget.
De quoi laisser l'Association des maires de France sur sa faim, même si elle ne s'attendait pas ce soir de la part d'un Premier ministre lui-même lucide sur ses capacités à décider au grand soir.
Rosalie Lafarge en direct du Congrès des maires, porte de Versailles à Paris avec Raymond Albouy pour les moyens techniques. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice sont à Marseille aujourd'hui, une semaine après l'assassinat de Mehdi Kessassi, le frère d'Amine Kessassi, le jeune militant mobilisé contre le narcotrafic. Laurent Nunez et Gérald Darmanin ont tenté de défendre leur bilan. Pour le garde des Sceaux, la menace du narcotrafic est au moins équivalente à celle du terrorisme sur le territoire national. Les chiffres sont glaçants, ils sont officiels. Chaque jour en France, plus de 3 femmes sont victimes d'un féminicide ou d'une tentative de féminicide. Des chiffres pour l'année 2024 qui émanent de la mission interministérielle pour la protection des femmes. Au total, 1283 femmes ont été victimes de féminicides directs, indirects ou tentatives de féminicide contre 1196 en 2023. Féminicide indirect parce qu'il y a des cas de suicide forcé, Roman Salch.
L'année dernière, près de 900 femmes ont été victimes de harcèlement par leur conjoint ou ex-conjoint. Harcèlement ayant conduit au suicide ou à une tentative. Et il s'agit uniquement des victimes enregistrées, précise le rapport. Emmanuelle est membre du collectif féministe Nous Toutes. Elle explique les mécanismes qui conduisent au suicide forcé.
C'est des violences physiques, c'est des violences psychologiques, c'est des violences économiques, administratives, sexuelles. Parfois, la victime n'en peut plus, en fait. Et elle est poussée à se suicider. C'est tous les mécanismes de violence qui sont étudiés autour de l'emprise, du contrôle coercitif. Et effectivement, on en parle beaucoup trop peu.
Le suicide forcé est une infraction née du Grenelle des violences conjugales de 2019, ensuite inscrit dans la loi en 2020. Depuis l'année dernière, cette donnée est prise en compte dans le rapport de la mission interministérielle pour la protection des femmes. En 2023, déjà, 773 femmes se sont suicidées ou ont tenté suite au harcèlement par le conjoint ou ex-conjoint. Le problème, il est très difficile pour les policiers de déterminer qu'une victime a été poussée au suicide.
L'enquête va devoir aller chercher les causes de la mort, en fait. Donc, c'est pas toujours évident, effectivement, de le montrer. Donc, c'est beaucoup des témoignages. Parfois, il y a des écrits qui ont été laissés par la victime, puisqu'elle avait porté plainte avant. Il faut que les forces de police aient la possibilité de mener une enquête très large dans l'environnement de la personne pour comprendre ce qui s'est passé et ce qui a pu conduire au suicide.
Les policiers ne sont pas encore formés pour reconnaître un suicide forcé.
Si en France, le gouvernement veut préparer les esprits à un éventuel conflit face à la Russie, Washington et Moscou négocient pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Le média américain Axios évoque un plan qui obligerait Kiev à renoncer à une partie de son territoire, notamment le Donbass et la Crimée. Ni le Kremlin ni la Maison-Blanche ne confirment à ce stade l'existence de ce plan. Mais l'Ukraine, qui n'a pas été associée à ces discussions, dit ce soir avoir reçu un projet de plan de la part des États-Unis. Kiev, qui jusqu'à présent rejette toute concession territoriale à Moscou. L'Union européenne aussi semble être écartée de ces négociations. Américano-russes, on retrouve à Bruxelles Pierre Benazé, bonsoir.
Bonsoir.
La chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, a rappelé aujourd'hui que la paix en Ukraine ne peut pas se faire sans les Européens.
Oui, parce que dans le plan communiqué à Kiev, l'Union européenne voit surtout une rhétorique qui ressemble, je cite, au narratif maximaliste du Kremlin. La perspective de voir l'Ukraine contrainte à céder des territoires à la Russie ou à réduire son armée de moitié, ça va exactement dans le sens contraire de ce que souhaitent les Européens. À témoin, les engagements à terme d'achat d'avions de combat Rafale français et Gripen suédois pour l'armée ukrainienne de demain. La chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, ajoute ajoute une question, où sont les concessions russes? Le ministre polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, dénonce l'inversion des culpabilités, la victime se voyant imposer des restrictions sur sa capacité à se défendre, alors que c'est le Kremlin qui devrait voir son potentiel agressif limité. Même son de cloche de la part de son homologue français, Jean-Noël Barrot. Il souligne que la Russie de Vladimir Poutine constitue un obstacle à la paix. Le ministre français des Affaires étrangères martèle qu'il ne peut être question de ce qui ressemble à une capitulation de l'Ukraine, une position partagée par la quasi-totalité des 27. Ils continuent à travailler sur un prêt de plusieurs dizaines de milliards à l'Ukraine. Et le ministre allemand, Johann Wadepool, souligne, comme Kaya Kallas et comme tous ses homologues, que l'Ukraine et l'Europe devront effectivement, vous l'avez dit, être impliquées dans une paix qui devra aussi comporter des garanties.
Merci Pierre Benazé en direct de Bruxelles. Israël a-t-il commis des crimes contre l'humanité en Cisjordanie occupée? C'est l'ONG Human Rights Watch qui porte cette lourde accusation. Dans un rapport publié ce matin, elle accuse le gouvernement israélien d'avoir déplacé de force les habitants de 3 camps de réfugiés palestiniens. C'était en janvier dernier lors de l'opération militaire Mur de Fer. Aujourd'hui, plus de 30 000 réfugiés survivent dans des conditions précaires, sans possibilité de retour. Lucas Lazo, on a rencontré quelques-uns à Jenin, dans le nord de la Cisjordanie.
Pour Maher, déplacé de force du camp de Jenin, l'opération militaire Mur de Fer a démarré par une nuit d'hiver au son des drones israéliens.
Au début, l'armée encerclait les maisons. Puis ils ont envoyé un drone qui nous donnait des ordres. Soit vous sortez, soit la maison s'écroulera sur vous si vous ne partez pas. Il était 5h du matin.
Avec sa famille, il vit désormais dans un petit studio sur le campus de l'université de Jenin. Leur maison, elle, s'est finalement effondrée. Son épouse a pu s'en approcher malgré la présence de snipers israéliens dans les ruines du camp.
J'ai vu les dégâts, énormément de destruction, tout était cassé, absolument tout. Les meubles, les armoires de la cuisine, dans notre chambre, le lit, le matelas, ils n'ont rien laissé. La machine à laver, les portes, tout avait été fracassé. C'est la ruine. Notre maison est complètement détruite.
Dans le studio voisin, Ahmed, professeur de mathématiques lui aussi déplacé, rappelle quelques principes fondamentaux du droit international.
Je pense que le droit international humanitaire protège justement les êtres humains, en particulier les réfugiés. Et en temps de guerre, personne ne devrait avoir le droit de nous expulser de l'endroit où nous sommes réfugiés, puisque nous n'avons tout simplement nulle part où aller.
Déplacement forcé, destruction des foyers, absence de droit au retour. Pour Human Rights Watch, il s'agit d'une violation manifeste des conventions de Genève par l'État hébreu, des conventions qui interdisent le déplacement de civils en territoire occupé.
Le reportage en Cisjordanie occupée de Lucas Lazo. C'est l'une des figures, voire l'un des pères de l'intelligence artificielle. Le chercheur français Yann Lequin a annoncé hier soir son départ de Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, où il dirigeait le laboratoire FAIR dédié à l'IA. À 65 ans, Yann Lequin a décidé de lancer sa propre start-up. Bonsoir Camille Magnard.
Bonsoir Stanislas.
Derrière ce départ, il y a des divergences d'appréciation sur le développement de l'intelligence artificielle entre recherche fondamentale et enjeux commerciaux.
Oui, et d'ailleurs, ça faisait quelques mois que Yann Lequin semblait mis sur la touche par Meta, qu'il avait recruté il y a 12 ans. En gros, depuis juin, quand la firme de Mark Zuckerberg avait recruté, cette fois, un petit génie de l'IA, Alexander Wang, chargé de tout miser sur les produits les plus rentables en ce moment, les agents conversationnels capables de concurrencer ChatGPT et consorts. Des applications de l'IA qui sont basées sur les LLM, ou gigamodèles de langage, et qui ont tendance à éclipser le modèle porté par Yann Lequin, centré lui sur l'apprentissage autonome des machines, le deep learning, dont il est l'un des pionniers. J'en ai parlé avec Nicolas Miaï, il est le PDG de la start-up Prism Eval et du think tank AI Safety Connect.
Pour Yann Lequin, on arrive au pic de ce que les LLM peuvent amener. Il faut faire avancer des découvertes et des progrès plus fondamentaux, notamment pour permettre à ces modèles d'acquérir des compétences cognitives en matière de modélisation du monde, de raisonnement et de planification à long terme. Et Yann Lequin, il pense que ce n'est pas avec les LLM seuls qu'on va arriver à faire ça.
Alors ce départ fracassant illustre une croisée des chemins, on le comprend, dans la Silicon Valley, sans doute aussi une divergence plus politique selon Nicolas Miaï.
Yann Lequin s'est finalement pas mal investi dans le cadre de la campagne dernière présidentielle aux États-Unis contre le président Trump pour défendre les problématiques de diversité, d'inclusion, de démocratie. Et s'est mis en première ligne contre notamment Elon Musk. Et alors que du côté des gens de la Silicon Valley, tout le monde s'est un petit peu aligné, notamment Mark Zuckerberg est réaligné auprès de Donald Trump, je pense qu'il y a eu peut-être probablement l'aboutissement d'un divorce un peu idéologique là aussi.
Oui, Yann LeCun reprend donc son indépendance vis-à-vis de Meta en créant sa propre start-up qui pourra tout de même, fait-il savoir, il ne faut jamais insulter l'avenir, vendre ses innovations à l'avenir au groupe de Mark Zuckerberg.
Explication signée Camille Magnard. Un mot du temps demain, toujours hivernal, après une belle matinée, des nuages et des averses sur la façade ouest et il neigera sur les reliefs, souvent à très basse altitude du soleil du côté de la Méditerranée. Demain matin, les gelées s'accentuent jusqu'à moins 5 degrés en plaine et l'après-midi, il fera entre 0 et 16 degrés du nord au sud.
France Culture, élection municipale 2026. Maire, pourquoi faire ?
Maire, pourquoi faire ? Notre rendez-vous hebdomadaire consacré aux élections municipales s'intéresse ce soir aux maires des petites communes rurales, des élus qui, par la force des choses, connaissent souvent la plupart de leurs administrés. Une proximité qui entraîne des sollicitations constantes dans des domaines qui parfois ne relèvent pas de leur champ de compétences. Le maire, l'homme ou la femme à tout faire de la République. Illustration avec ce reportage de Lise Verbeck en Picardie.
Valérie Mouton est la maire d'Audecelle, village verdoyant, très rural, en fond de vallée, à 15 km au sud d'Amiens. Merci de prendre le temps. On peut se mettre là, ouais, super.
Le bureau, c'est un peu encombré.
Entre son travail de secrétaire de mairie dans un autre village et la gestion de sa commune de 1100 habitants, la maire de 56 ans ne compte pas ses heures.
Mes journées font plus de 24 heures, oui. Effectivement.
Elle en est à son deuxième mandat et avec l'écharpe tricolore, elle a appris à empiler les casquettes.
Le maire, déjà, il faut qu'il écoute les gens. Donc, il y a un petit côté assistante sociale. Régulièrement, on reçoit des demandes pour des gens en difficulté. Donc, il faut alerter, il faut aller chercher les services sociaux, vers les caisses de retraite. Il faut une multitude d'interlocuteurs pour aider les gens. Ensuite, il faut qu'il ait une veille juridique constante puisqu'on l'interpelle surtout en termes d'urbanisme. On fait, on gère le cimetière, l'église, on gère les animaux errants. Ça arrive fréquemment, même les gendarmes. Allô, madame le maire, un administré nous a signalé une vache, un mouton, un chien, un cheval aussi régulièrement. On est là quand il y a des intempéries. Il faut savoir aller poser des panneaux en pleine nuit parce que il y a des inondations et qu'il faut baliser. On est là pour faire les travaux de voirie. Il faut savoir tout faire.
Depuis l'épidémie de Covid, elle a remarqué que ses administrés sont plus exigeants et impatients. Ils attendent d'elle une réponse rapide lorsqu'ils l'interpellent.
Ça fait partie du job. Parfois du mal à faire respecter même ma propre maison où les gens viennent toquer à la porte parce qu'ils ont un petit souci qui ne peut pas attendre le lundi matin.
Monsieur Collier, votre rendez-vous est arrivé.
Être disponible pour ses 1150 administrés à toute heure, même la nuit, Amaury Collier essaye de l'être au maximum. Il est le maire de Oisemont depuis 5 ans. Son numéro de téléphone circule et il reçoit aussi beaucoup de messages sur ses réseaux sociaux personnels.
Ouais.
Alors là, c'est Facebook, du coup, Messenger.
Donc là, oui, sur Messenger. Donc 1, 2, 3, 4, 5, sur les 6 premiers contacts qui apparaissent, ça c'est administré, administré, administré. Et puis si on défile, on a un entrepreneur, un administré encore, mon frère, administré.
Cet infirmier anesthésiste de 40 ans a eu l'autorisation de sa direction de garder son téléphone au bloc.
C'est parfois pesant. J'ai parfois des administrés qui m'appellent très tard le soir, voire la nuit, parce qu'il y a un tapage nocturne et que de toute façon, je serai appelé quelques minutes après par la gendarmerie s'ils font le 17.
Il est aussi forcément interpellé quand il se balade dans les rues.
Des moments où j'évite parce qu'il y a des sujets en cours sur la commune qui sont un petit peu polémiques ou tendancieux. Et parfois, il faut aussi savoir courber les chines, pas trop se montrer et attendre que le projet ait la pleine adhésion.
Il remarque également que les habitants souvent préfèrent parler au maire plutôt qu'aux adjoints, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un conflit de voisinage.
Un maire, théoriquement, ne doit s'occuper que du droit public et le droit privé, ça doit passer dans les mains de la gendarmerie, du consignateur de justice. Mais avant de laisser s'envenimer quelques sujets que ce soit, on essaye de rapprocher un peu les parties régulièrement, je ne veux pas dire toutes les semaines, mais presque. On a des sujets comme ça qui sont un petit peu délicats, mais ça fait partie du job, entre guillemets. Oui.
En tant que maire, il a aussi une autre mission délicate qu'il a dû effectuer pour la première fois le lendemain de son élection.
La première chose que j'ai fait en tant que maire, mère, ça a été de faire une mise en bière. C'est un officier d'état civil qui vient apposer le tampon de cire de la commune pour que le défunt puisse quitter la commune. Forcément, c'est quelque chose qui me restera gravé à vie, d'autant plus que je savais pas trop comment faire, comment on fait brûler la cire, comment on met le tampon. Enfin, c'est des gestes aujourd'hui qui sont devenus coutumiers. C'est quelque chose qui est maintenant, je vais pas dire banal, mais enfin qui est pleinement rentré dans l'une de mes activités liées au mandat. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu gauche au départ. Mais bon, voilà, je pense que ça a été fait. J'ai pu compter aussi sur les pompes funèbres pour me guider et puis me faire un petit récap en off avant d'arriver et de faire ce geste devant la famille.
Il a aussi été confronté récemment à un drame qui a touché sa commune. Deux jeunes habitants qui sont morts dans un éboulement en Haute-Savoie. Et c'est lui qui a dû l'annoncer aux familles.
Alors, plusieurs casquettes et une disponibilité totale, cette sursollicitation des maires ruraux explique en partie le chiffre record de démissions en cours de mandat ces 5 dernières années. 2200 maires ont rendu leur tablier depuis les municipales de 2020, soit une quarantaine en moyenne par mois. On constate aussi une évolution du profil sociologique de ces maires ruraux. Dans les campagnes, les maires agriculteurs sont de moins en moins nombreux. Écoutez l'analyse de Sébastien Vignon, maître de conférence en sciences politiques à l'université Picardie Jules Verne. Il répond à Lise Verbeck.
À chaque scrutin, et surtout depuis 1995, on constate une diminution du nombre d'agriculteurs ou d'anciens agriculteurs ou agricultrices qui s'engagent dans le mandat de maire. Au profit de qui ? Il s'agit principalement des cadres et professions intellectuelles supérieures, mais aussi des professions intermédiaires, les métiers par exemple liés à l'enseignement, infirmières, infirmiers, contremaîtres, techniciens. Le constat que l'on peut dresser, hein, lorsqu'on regarde sur le temps long le profil socio-professionnel des maires des petites communes, c'est que la diminution des effectifs agricoles n'a pas profité aux catégories populaires, salariés en tout cas. Je veux dire les employés, les ouvriers, qui restent malgré tout très présents dans la population active de ces espaces, et notamment dans les plus ruraux qu'ils soient. Mais ce sont les catégories moyennes et supérieurs salariés qui, parce qu'elles revendiquent aussi la détention de compétences techniques, hein, aujourd'hui, être maire d'une petite commune, c'est certes être présent sur le terrain, c'est être dans des relations, dans des interactions avec ses administrés, rendre service, recevoir en mairie, mais c'est aussi être capable d'entreprendre des projets de développement local. Dans beaucoup de petites communes en voie de périurbanisation, vous avez des nouvelles populations qui s'installent. Et il y a aussi du coup des exigences nouvelles pour les élus, développer par exemple des services périscolaires. Bon, donc évidemment, l'ancrage local est important, mais la capacité à apparaître comme un élu entrepreneur de politique publique, c'est également une compétence qui devient de plus en plus déterminante.
Est-ce que la périurbanisation ou l'arrivée de nouvelles populations dans les villages a changé le rapport des administrés avec leur maire ? Est-ce que ça veut dire que les administrés sont encore plus exigeants vers leur maire et les sollicitent encore plus, sachant qu'ils sont déjà très sollicités ?
Les sollicitations envers les élus sont multiples. Il y a évidemment toutes les relations de face à face, où on interpelle aussi son élu, par exemple, lors de manifestations, les fêtes locales, les cérémonies officielles. Se sont développées aussi les sollicitations numériques, par mail, mais aussi par contact téléphonique sur les téléphones portables. Les maires évoquent aussi souvent l'activité chronophage de gestion des appels sur les téléphones portables ou des SMS. Bref, ce qu'on constate en tout cas dans les communes qui sont le plus concernées par la périurbanisation, c'est paradoxalement aussi une sorte de dépersonnalisation des liens. C'est-à-dire, c'est qu'ils ont l'impression, ces élus, que généralement, les administrés, notamment peut-être les plus récemment installés, viennent les voir justement quand ils ont besoin. Aujourd'hui, parfois, il y a des locataires qui sont là quelques mois, quelques années, qui repartent et qu'on ne voit pas en fait. Sauf quand il arrive un problème technique, je sais pas, un problème de canalisation, d'assainissement ou autre.
Le maire de Oisemont me disait que quand les administrés avaient un problème, il voulait qu'il soit solutionné par le maire, pas forcément par ses adjoints. Est-ce que ça veut dire que le maire reste la figure importante et la seule à pouvoir résoudre les problèmes ?
Ben, dans les représentations des administrés, effectivement, le maire est la figure centrale et l'interlocuteur, entre guillemets, qu'ils estiment être le plus adapté pour répondre à leurs demandes. Et d'autant plus que les services publics ou les autres services publics ont plutôt tendance à s'éloigner des territoires ruraux et Évidemment, l'une des personnalités vers lesquelles se dirigent les administrés, c'est le maire de la commune qui, parfois, gère des demandes qui sortent même, on va dire, de son champ de compétences, mais parce qu'il faut bien créer du lien social et que, par exemple, tout à l'heure, on parlait des questions de dématérialisation, eh bien, parfois, des personnes âgées, ou pas seulement d'ailleurs âgées, mais qui sont peu familiarisées avec la maîtrise de l'outil informatique, ont recours à la mairie parce que c'est encore le lieu où il est possible d'avoir une écoute et une présence.
Sébastien Vignon, maître de conférence en sciences politiques, dossier préparé par Lise Verbeck, maire Pourquoi faire, le rendez-vous hebdomadaire de France Culture avant les municipales de mars prochain, tous les jeudis à 18h15, mais aussi sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. À la préparation ce soir, Alison Vicrobeck, à la technique, Éric Perruchot-Triboulet.